VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 27 janvier 2023. Avec vous, Eric Manirakidza, voici d'abord le sommaire. En RDC, les rebelles du M23 ont progressé au nord-ouest de Goma. Poussés hors du Mali et du Burkina, la France se cherche une stratégie au Sahel. En Tunisie, nouveau vote dimanche pour le Parlement avec la participation comme baromètre. Un chef du groupe État islamique tué dans un raid américain en Somalie. Ici aux États-Unis, 5 policiers sont inculpés pour meurtre après l'arrestation brutale d'un Africain américain. Guerre en Ukraine, des élus américains appellent à sanctionner la Chine. Au moins 10 Palestiniens tués lors d'opérations israéliennes hier jeudi et ce vendredi en Cisjordanie et à Gaza. Les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2022, débutent ce vendredi. Vous aurez les détails de Yacouba Ouédraogo que vous retrouvez dans les sports. À suivre dans la page économie, le PRODEL, projet de développement de l'élevage, vise à réduire le déficit de la production laitière au Cameroun. Mais d'abord, le journal. Dans l'est de la RDC, la rébellion du M23 a progressé ces derniers jours jusqu'à une route stratégique où des affrontements opposaient encore hier les rebelles à l'armée congolaise et à d'autres groupes armés. Rosine Munezer.
Le M23 progresse depuis lundi dans le Masisi, au nord-ouest de Goma, a indiqué sur Twitter le baromètre sécuritaire du Kivu. Des affrontements sont signalés autour des villages de Kilolilgwe, Burungu et Kichanga, et le M23 est parvenu à couper la route Kichanga-Goma au niveau de Burungu. Sous l'effet de différentes initiatives diplomatiques, les rebelles ont annoncé en décembre et janvier leur retrait de 2 positions conquises. Mais selon des témoins, ils sont toujours présents et des affrontements se sont poursuivis dans d'autres secteurs vers l'ouest. Le facilitateur et ancien président kényan Uhuru Kenyatta a fait part mercredi de sa profonde préoccupation face à la forte détérioration de la situation dans le Nord Kivu. Mardi, le Rwanda a accusé un avion de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. Kinshasa a démenti, accusant le Rwanda d'avoir attaqué l'appareil, ce qui, selon le gouvernement congolais, équivaut à un acte de guerre.
Le Mali l'a remplacé par les Russes, le Burkina ne veut plus d'aide et les djihadistes étendent leur zone d'influence en pleine disgrâce au Sahel. La France doit s'inventer une stratégie pour rester militairement efficace et politiquement influente. Jean-Roger Bion.
Le déclassement de fait est profond. Le dernier soldat français est parti du Mali fin août après 9 ans d'opérations militaires. Les relations sont glaciales avec Bamako qui s'est offert les services du groupe paramilitaire russe Wagner. En Centrafrique, où l'ex-puissance coloniale s'était déployée face aux violences intercommunautaires, les ultimes militaires français ont quitté en décembre. Et au Burkina, les 400 soldats des forces spéciales doivent plier bagages et ils ont à peine un mois pour le faire. Ce sont autant de signes d'une image dégradée de la France dans les opinions de la région où des puissances concurrentes comme la Russie et la Chine s'affichent ouvertement. L'été dernier, le président Emmanuel Macron avait indiqué souhaiter redéfinir le projet de l'Hexagone en Afrique avec une action militaire axée sur les partenariats avec les armées locales et une visibilité moindre, mais on attend toujours cette nouvelle politique française envers l'Afrique.
Le gouvernement gambien a annoncé ce jeudi avoir disculpé 3 soldats parmi les 8 accusés d'être mêlés à une tentative de coup d'État présumée en décembre. Ces 3 soldats ont été libérés après avoir été blanchis mercredi, affirme un communiqué du gouvernement. 4 autres soldats et un policier accusés de complot en vue de commettre un crime sont visés par 2 nouvelles charges, selon ce communiqué. Quelques 8 millions de Tunisiens sont invités à voter dimanche pour élire un nouveau parlement au pouvoir limité par le président Kais Saied sur fond de désaffection pour la politique et de difficultés économiques croissantes. 262 candidats pour 131 des 161 sièges se présentent au deuxième tour des législatives, l'une des dernières étapes de l'instauration d'un système ultra-présidentialiste, objectif affiché de M. Saied depuis son coup de force de l'été 2021. Le bilan de l'explosion d'une bombe qui a frappé mercredi un groupe d'éleveurs dans le centre du Nigeria est monté à 40 morts contre 27 précédemment, a annoncé ce jeudi le gouvernement. Les éleveurs et leurs troupeaux se trouvaient dans une région en proie à des violences communautaires. Une association d'éleveurs a évoqué une frappe aérienne de l'armée. Un chef du groupe État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et environ 10 personnes liées à l'organisation terroriste ont été tuées mercredi dans un raid américain en Somalie, a fait savoir hier jeudi l'exécutif américain. Al-Soudani se chargeait d'encourager la présence croissante du groupe État islamique en Afrique et de financer ses opérations dans le monde, y compris en Afghanistan, a commenté dans un communiqué le secrétaire à la défense Lloyd Austin. Cette opération préparée depuis plusieurs mois n'a fait de victimes ni dans la population civile ni parmi les militaires américains. Le président Joe Biden a donné son feu vert à l'opération cette semaine après avoir consulté les plus hauts responsables de la défense et des services de renseignement, a indiqué une haute responsable de la Maison-Blanche.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 5 policiers ont été inculpés et incarcérés ce jeudi pour meurtre à la suite du décès début janvier d'un Africain-Américain. La famille du défunt avait jugé son arrestation brutale selon des documents judiciaires. Mohamedou Oumfa.
Ces agents de la police de Memphis dans le Tennessee sont visés par plusieurs chefs d'inculpation, dont meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement, d'après le registre de la prison du comté de Shelby. Le 7 janvier, des policiers avaient voulu arrêter Tyree Nichols, Africain-Américain de 29 ans, pour une infraction routière. Alors que les agents s'approchaient, une confrontation avait eu lieu et le suspect s'était enfui, ont affirmé les forces de l'ordre dans un communiqué. Tyree Nichols avait finalement été interpellé, mais s'était plaint d'avoir du mal à respirer et avait été hospitalisé. Il était décédé 3 jours plus tard. Les détails de cette arrestation ne sont pas encore clairs. Une vidéo des faits existe. Elle a été montrée à la famille de Tyree Nichols, mais elle n'a pas encore été rendue publique. Mais selon les avocats de la famille de Tyree Nichols, la police l'a battu au point qu'il était méconnaissable. L'affaire trouve un écho particulier dans un pays encore marqué par la mort de George Floyd en mai 2020 et les manifestations Black Lives Matter contre le racisme et les violences policières qui avaient suivi.
Au moins 10 Palestiniens ont été tués hier jeudi et ce vendredi en Cisjordanie et à Gaza, dont la dernière a été présentée comme une réponse à des frappes du Hamas. Il s'agit de la séquence la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la flambée de violence entre l'armée israélienne et le djihad islamique à Gaza. L'armée israélienne parle d'une opération antiterroriste dans le camp de réfugiés de cette ville de Cisjordanie occupée. Nathalie Barge.
Selon le ministre de la Défense israélien, Yoav Galanat, le raid était une opération de contre-terrorisme visant des membres de l'organisation djihad islamique qui planifiait une attaque en Israël. Le directeur de l'hôpital local, Wissam Bakr, a dit que du gaz lacrymogène a été tiré dans le périmètre de l'établissement, posant un danger pour les enfants qui ont été transférés loin des affrontements. La résistance est prête pour le prochain affrontement, a déclaré Tariq Salmi, porte-parole du djihad islamique. L'autorité palestinienne a dénoncé ce qu'elle qualifie de massacre et a annoncé mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël. Le département d'État américain a dit regretter cette décision, jugeant important que les parties maintiennent leur coordination sécuritaire. Washington a indiqué que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre la semaine prochaine en Israël et Cisjordanie pour insister sur la nécessité urgente de prendre des mesures de désescalade. L'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, mène des opérations quasi quotidiennes en territoire palestinien, principalement dans les secteurs de Jénine et Naplouse, bastion des groupes armés palestiniens. Selon l'ONU, le camp de Jénine, qui date de 1953, abrite plus de 23 000 réfugiés.
Ok, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken aura notamment un entretien avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à Jérusalem et Ramallah. Il rencontrera le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Des élus américains ont appelé jeudi l'administration Biden à adopter une position plus ferme contre la Chine, accusant des entreprises chinoises de fournir un soutien à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Son collègue républicain James Risch a estimé, lui, que la Chine agissait en toute impunité et qu'il fallait renforcer les sanctions contre les entreprises chinoises. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre en Chine les 5 et 6 février. « Nous devons être bien plus robustes face à la Chine », a déclaré le sénateur démocrate Bob Menendez, qui préside la commission des affaires étrangères du Sénat, évoquant des preuves que des entreprises chinoises fournissent de la technologie à double usage, dont des semi-conducteurs nécessaires par exemple pour guider les missiles. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Au Togo, les autorités portuaires ont inspecté 683 navires ayant accosté au port autonome de Lomé en 2022. Ces contrôles ont progressé de plus de 300% en 2 ans, surtout grâce aux nouveaux moyens de transport sur le port, selon le ministère de l'économie maritime. Le Togo réglemente le secteur depuis 2021, conformément aux normes de l'Organisation maritime internationale, notamment pour les modalités de transport en mer de marchandises dangereuses et de leur stockage dans les ports du pays. Au Cameroun, 165 vaches laitières Montbéliard ont été réceptionnées à Garoua dans la région du Nord. Depuis 2020, la coopérative Coupex a livré 495 génisses au pays dans le cadre du PRODEL, le projet de développement de l'élevage visant à réduire le déficit de la production laitière. Cette race de vaches laitières originaire de la région de Montbéliard dans le département du Doubs en France est utilisée principalement pour la production du fromage. En Afrique du Sud, Enel Green Power a signé 2 contrats d'achat d'électricité avec Air Liquide et Sasol. Ces accords visent à fournir 220 MW d'énergie renouvelable au site de Sasol à Secunda, où Air Liquide produit de l'oxygène. 2 projets éoliens de Enel dans la province du Cap-Oriental fourniront plus de 800 gigawatts annuellement. Cela contribuera à la décarbonisation du site en réduisant les émissions de CO2, a déclaré l'entreprise Enel Green Power.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Kango Angoje, c'est la 5e étape de la tropicale Amissa Bongo.
Oui, 130 km à parcourir. Hier, l'Afrique a arraché sa première victoire dans ce tour cycliste international gabonais. L'Algérien Azedine Lagab s'est imposé devant l'Érythréen Teshome Hagos lors de la 4e étape courue entre Mouila et Lambaréné, 190 km. Après une longue échappée, les 2 coureurs ont conservé quelques secondes d'avance sur le peloton pour finir la course. Cette victoire d'étape algérienne n'a eu aucune conséquence sur le maillot jaune qui reste sur les épaules du Français Jason Tesson, vainqueur des étapes 2 et 3 de cette tropicale Amissa Bongo. Il est talonné par son compatriote de la même équipe Total Energy, Geoffrey Soup, relégué au 2e rang du classement général.
Football Yacouba débute ce vendredi des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022.
2 matchs au programme. Le pays hôte, l'Algérie, fait face à la Côte d'Ivoire à 15h temps universel. Et juste après, à 19h TU, le Sénégal affronte la Mauritanie. Samedi, les novices malgaches qui découvrent cette compétition voudront poursuivre leur belle aventure face au Mozambique à 15h temps universel. Toujours samedi, le dernier quart de finale met aux prises le Niger et le Ghana dans un duel ouest-africain à 19h temps universel.
Basketball, avant de nous quitter, Joel Embiid décidera s'il joue avec la France après la fin de la saison de NBA.
C'est ce qu'a affirmé le pivot camerounais des Philadelphia Sixers, récemment naturalisé français et américain, dans le quotidien sportif L'Équipe. Je suis concentré sur cette saison de NBA car on a une bonne opportunité d'être champion avec les Sixers. Je veux que ma tête soit à 100% ici, a répondu Joel Embiid, 28 ans. La France a pour principale échéance les mondiaux qui auront lieu du 25 août au 10 septembre prochain au Japon, aux Philippines et en Indonésie. Interrogé spécifiquement sur un calendrier qui le verrait enchaîner une saison de NBA avec une participation à ce mondial 2023 ou au JO 2024 à Paris, Embiid a reconnu qu'il s'agirait d'un bel enchaînement. Les Philadelphia Sixers sont deuxièmes de la conférence Est. Après la mi-saison, ils devraient se qualifier pour les playoffs qui débuteront en avril. La finale de la saison de NBA aura lieu en juin.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, place au dossier du jour. Aminata Touré persiste et signe. L'ancienne première ministre sénégalaise du président Macky Sall affirme qu'elle continuera à se battre contre une candidature de son ex-patron à un troisième mandat en 2024. Elle affirmait que c'est sa position sur cette question du troisième mandat pour laquelle le président lui-même ne s'est pas encore prononcé, qui lui a valu son exclusion de l'Assemblée nationale en tant que députée non inscrite. Aminata Touré est interrogée par Abdourahmane Dia.
Il y a 6 mois, je dirigeais la liste de la coalition Bernobok-Yakar. J'étais la tête de liste. Mais évidemment, la question du troisième mandat m'oppose directement avec le président Macky Sall parce qu'il n'y a pas d'autres problèmes sur la table. Je considère que le président Macky Sall ne devrait pas se présenter pour un troisième mandat. Après qu'on ait ensemble fait campagne pour la constitution de 2016, qui disait clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Voilà, cela, c'est la divergence de fond. Évidemment, j'étais devenu député non inscrit, mais je crois que cela ne suffisait pas. Il fallait que le président Macky Sall m'exclue de manière illégale, d'ailleurs. Je l'ai appris par la presse, par une simple réunion de bureau. Ce mandat, c'est un mandat quand même du peuple sénégalais.
Alors, la question du troisième mandat ou de la candidature, que vous dites que c'est un peu la question de fond, vos critiques vous reprochent de n'avoir pas évoqué, du moins publiquement, cette question quand vous étiez dans la coalition Bernobok-Yakar. Vous avez évoqué cette question en privé avec le président ou pas?
Alors, vous êtes journaliste, je vous demande de taper sur Google et de voir Aminata Touré, troisième mandat. Nous avons énormément de vidéos où nous avons affirmé Urbi et Orbi, à la suite du président Macky Sall d'ailleurs, et de tous les cadres de Bernobok-Yakar, que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nous l'avons dit à satiété, le président Macky Sall l'a écrit dans son livre. J'ai été on ne peut plus clair sur cette position. Alors, la divergence entre moi et mes anciens camarades, c'est que moi, je suis resté sur la position et eux, ils veulent avoir une interprétation différente qui ferait perdurer à la tête du pays le président Macky Sall. Quel que soit le bon bilan qu'il a à la tête du Sénégal, son mandat, son dernier mandat se termine en février 2024. C'est ça la loi.
Et qu'est-ce que vous comptez faire?
Ça n'entame en rien ma détermination à poursuivre, puisque j'ai annoncé ma candidature en janvier. C'est là où tous les problèmes aussi se sont accélérés. Mais tout le monde a le droit, dans un parti ou dans une coalition, de dire qu'on est candidat. C'est ça la démocratie. Et ensuite, surtout, je vais, avec tous les démocrates de ce pays, on va se mobiliser, nous battre, pour que la démocratie sénégalaise ne connaisse pas de recul.
L'ex-première ministre sénégalaise, Aminata Touré, au téléphone de Abdourahmane Dia.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, pas moins de 1302 réfugiés nigérians sont retournés volontairement dans leur pays entre vendredi et lundi dernier, d'après le ministère camerounais de l'administration territoriale. Ces réfugiés ont séjourné dans le camp du Haut Commissariat pour les réfugiés situé à Minao, dans la région de l'extrême nord frontalière du Nigeria, après avoir fui les exactions de Boko Haram. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Njultap, a assisté à ce retour volontaire. Son reportage.
Le septuagénaire Mohamed Boukar a séjourné pendant 9 ans dans le camp des réfugiés nigériens de Minao, à l'extrême nord du Cameroun. Avec son épouse et ses enfants, il a décidé de retourner volontairement à Bangui, son village natal dans l'état de Borno, Nigeria.
Je veux retourner dans mon pays d'origine pour reprendre les activités, notamment agricoles, parce que j'ai laissé plusieurs parcelles là-bas. Donc il y a la culture du coton que je vais reprendre. Il y a une variété de cultures que je peux faire dans mon pays. J'espère vivement que la situation est stable là-bas, parce que j'ai l'ambition et je suis décidé à rentabiliser les parcelles que j'ai laissées dans ma localité d'origine.
Falmata Moussa retourne aussi à Bangui. Cette mère de 6 enfants n'a pu résister à l'envie de rentrer chez elle au moment propice.
L'année dernière, il y a des frères qui sont rentrés à Bangui, au pays. Ils sont toujours là-bas. Ils vivent dans la sécurité. Ça nous a également rassurés, raison pour laquelle, lorsque le gouvernement nous a informés de ce retour volontaire, nous avons répondu favorablement.
66 000 réfugiés nigériens ont été accueillis sur le territoire camerounais depuis 2013. Le HCR planifie cette année un retour volontaire de 5 000 d'entre eux.
Il y a eu donc depuis ces derniers temps ce qu'on appelle des go and see visits, donc des réfugiés nigérians qui sont allés voir sur place quelle était la situation à Bangui, donc dans l'état de Borno, pour voir un peu est-ce que les conditions étaient propices au retour. Et au regard de toutes les actions qui avaient été menées par les autorités nigériennes en termes de shelter rehabilitation, donc de revoir un peu les maisons et d'offrir un habitat à chaque réfugié qui rentre, les réfugiés sont revenus sur le camp avec un retour très positif. Et c'est eux-mêmes qui ont fait la restitution à leurs confrères. Et d'où on a vu, nous, le HCR, un nombre croissant de personnes qui sont venues s'enregistrer pour demander le retour volontaire.
Selon le gouverneur de la région de l'extrême nord, entre mars et avril 2021, plus de 3800 réfugiés sont rentrés dans les convois de rempatriement avec des commodités.
Le chef d'État en un laps de temps, parce qu'il n'y a que 2 ou 3 jours qu'il a été informé de ce rapatriement. Il a demandé que tout soit mis en œuvre, qu'il soit accompagné dignement avec tous ses moyens. Vous avez vu les quantités de nourriture, de matelas, de tout autre matériel avec lequel les gens peuvent recommencer leur vie.
We appreciate the compassion, the love and the care.
Nous apprécions la compassion, l'amour. Cela prouve que nous sommes tous de l'Afrique, comme je l'ai dit précédemment.
Selon le HCR au Cameroun, plus de 1000 réfugiés de près de 300 ménages du camp de Minao ont exprimé ces derniers mois leur souhait de retourner dans le tas de Borno. Emmanuel Junta, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Fonds monétaire international se déclare prêt à appuyer les pays de la communauté est-africaine pour qu'ils soient plus résilients au changement climatique, à condition de prendre le devant dans ce combat. Indication faite cette semaine à Kigali par Kristalina Georgieva, directrice du FMI, à l'occasion de sa visite dans la sous-région de Kigali, le compte rendu de Jean Damascène Manishim.
La sauvegarde de l'environnement et l'accroissement des investissements publics dans ce secteur en vue de faire face au changement climatique, c'est le point qui a longuement occupé à Kigali les échanges entre la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et les ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ces responsables des institutions financières dans la sous-région déplorent par ailleurs les difficultés partagées par la plupart des pays est-africains à mobiliser les fonds nécessaires pour redresser leurs économies et assurer le bien-être social de la population. Désiré Moucharité est vice-gouverneur de la Banque nationale du Burundi.
On a beaucoup de besoins au niveau social. Et il devient difficile de dégager une marge de manœuvre pour financer justement les projets en faveur du climat. Est-ce que ça ne serait pas bon d'avoir une approche régionale? Parce que s'il y a une sécheresse en Tanzanie, ça affecte directement le Burundi. On l'a vu avec l'année 2022, avec les changements climatiques. On a eu des problèmes au niveau de l'alimentation de la population.
La directrice générale du Fonds monétaire international réplique que la responsabilité première revient aux pays de la sous-région qui doivent s'investir davantage et favoriser des investissements en faveur du climat. Et à elle d'ajouter que la conjugaison des efforts dans ce combat pour le climat reste un impératif mondial.
Simplement, il n'existe nulle part assez d'argent pour financer la transformation climatique. Nous parlons de milliards et des milliards nécessaires et nous discutons de millions disponibles. À moins que nous utilisions des milliards pour créer des conditions fortes pour l'investissement privé, on ne trouvera pas les fonds à l'échelle nécessaire. Comme on est réunis ici, nous sommes fragmentés, la Banque mondiale fait ceci, la Banque africaine de développement fait cela, chacun a un projet, tout est très bien, mais ça ne nous fait pas avancer.
D'autre part, certains ministres des Finances de la communauté est-africaine soutiennent que les pays de la sous-région doivent s'inspirer de la pandémie de COVID-19 pour prévenir le futur. Igiel Ndayijimana est ministre rwandais des Finances. Depuis 2021, nos économies régionales se redressent relativement bien. Cependant, nous devons construire une résilience contre les pandémies à venir ou autres chocs. Formée de 7 pays actuellement, la communauté est-africaine souhaite renforcer l'économie régionale à travers divers protocoles comme l'union monétaire d'ici 2024. Jean Damasen Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le chien policier est utilisé dans les forces de l'ordre depuis le Moyen-Âge. Aux États-Unis, il bénéficie du statut d'agent de police. Nathalie Barge s'est rendue à une compétition de K9 des unités de police de Virginie et Washington DC à Nokesville pour relater les exploits de ces chiens qui obéissent au doigt et à l'œil.
Une cinquantaine de chiens policiers et leurs maîtres doivent franchir plusieurs obstacles sur un parcours de 2,5 km. Policières et policiers sont fiers de présenter leurs coéquipiers à quatre pattes, élevés au rang d'officier de par leur travail.
C'est Max, un braque allemand de 5 ans, de la police du Capitole des États-Unis.
Tuer un chien policier est passible de 1 à 20 ans de prison selon les États. En 2016, un homme a été condamné à 34 ans de prison pour avoir tué un canine dans l'Ohio. Les chiens policiers ne portent pas tous des gilets pare-balles. La plupart des unités canines n'ont pas le budget pour ces gilets qui coûtent entre 1 000 et 3 000
$. Il porte juste cette veste afin de se mouvoir aisément.
Le chien policier prend sa retraite au bout de 6 à 8 ans de service.
C'est pour qu'ils puissent avoir une bonne qualité de vie et pour qu'ils ne travaillent pas toute leur vie.
Ensuite, son partenaire est prioritaire sur son adoption.
Leah Berkeley, de la police de Leesburg.
C'est ce que nous faisons en général. Nous les adoptons et il vient à la maison avec moi tous les jours, donc il fait déjà partie de la famille.
Entraîner un chien est un long travail de patience. L'événement est une occasion pour les professionnels de démontrer leurs compétences. Le business du dressage est répandu aux États-Unis, où plus de 40% de la population a au moins un chien, soit environ 66 millions de foyers.
Mickey Douglas, éducatrice canine à Sidminsit.
Il s'agit d'avoir un chien dressé qui vous écoute, quelle que soit la distraction, même s'il s'agit de personnes qui entrent chez vous ou de pouvoir les emmener dans des environnements très distrayants. Tout le monde ne peut pas faire ça avec son chien.
Certains éducateurs canins offrent des services spécialisés comme James Bojoun de Connected Canine.
Nous travaillons sur la modification de comportement, les chiens agressifs, la rééducation, ce genre de choses.
Les femmes sont plus rares que les hommes dans les unités canines policières. Une poignée de femmes sont présentes à la compétition.
Cathy Beth Strobel, de la police du comté de Prince William.
Nous travaillons en tant que patrouille, on répond aux appels de service avec d'autres agents de patrouille et on intervient pour tout ce qui concerne un canine.
Leah Berkeley se dit satisfaite des compétences de son coéquipier canin.
Elmore est formé à la détection de stupéfiants. Il est vraiment doué pour trouver de la drogue dans la rue et il est officier depuis environ un an.
Selon la Humane Society, les refuges pour animaux aux États-Unis accueillent plus de 3 millions de chiens par an, dont près de la moitié ont été abandonnés. Ce fidèle compagnon n'aurait, lui, jamais l'idée d'abandonner son humain de compagnie, envers qui il est toujours reconnaissant.
Nathalie Barge à Knoxville pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Fatouma Kalala Alimassi a aussi assuré la mise en onde. Merci à toute l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manirakiza, ici Val au Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook.